de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Ministère de l'Industrie est proactif pour accroître les capacités des PME tout au long de 2023. L'entreprise d'électricité d'État soutient la transition énergétique grâce à l'infrastructure des véhicules électriques. Le public est invité à être conscient du risque des conditions météorologiques extrêmes en janvier 2024. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative soutient la mission visant à gravir le sommet du mont Aconcagua en Argentine. Le gouvernement provincial de Java occidental cible l'ASEAN et le Moyen-Orient pour exporter des meubles en rotin. IDEX est optimiste quant au nombre d'émetteurs qui atteindra 1000 en 2024. Et voici les nouvelles incomplètes. Le ministère indonésien de l'Industrie est proactif dans l'augmentation des capacités du secteur des petites et moyennes industries, PME, grâce à des programmes de facilitation technologique et à l'infrastructure technologique en améliorant la qualité des produits et l'expertise des acteurs des petites et moyennes industries, ainsi qu'en augmentant l'accès au marché tout au long de 2023. La directrice générale des petites et moyennes industries et Anika, ministère de l'Industrie, Reni Yanita, dans une déclaration à Jakarta mercredi, a déclaré que la population des petites et moyennes industries a atteint 4,19 millions d'unités commerciales ou a contribué à 99,7% du total des unités commerciales industrielles en Indonésie. La Direction générale des petites, moyennes et diverses industries a facilité 65 petites et moyennes industries dans le programme de restructuration des machines et équipements de production d'une valeur totale de 7,9 milliards de roupies. Et la valeur totale de l'investissement en machines et équipements réalisés par les acteurs des petites et moyennes industries en montant de 60,7 milliards de roupies. Selon Reni, les efforts visant à renforcer les petites et moyennes industries dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie manufacturière nationale sont également menés à travers des accords de liaison et d'optimisation de coopération avec des ministères ou des institutions. La compagnie d'électricité d'État PLN Percero SA a déclaré son engagement à continuer de soutenir le gouvernement dans les efforts de transition énergétique en construisant des infrastructures pour soutenir l'écosystème des véhicules électriques. Le président directeur du PLN, Darmawan Prasodo, a expliqué dans une déclaration à Jakarta mercredi 3 janvier que le PLN construisait une station publique de recharge pour véhicules électriques dans la cour du ministère des Entreprises d'État, BUMN. Cela a été fait pour soutenir pleinement les mesures prises par le ministère des Entreprises d'État pour utiliser des véhicules électriques comme véhicules officiels pour les fonctionnaires des échelons 1 et 2. Le ministre des Entreprises d'État, Eric Toyer, a déclaré que l'utilisation des véhicules électriques comme véhicules officiels est une étape stratégique pour la transition énergétique dans l'écosystème des entreprises d'État. Il a estimé qu'en passant aux véhicules électriques, les ministères des entreprises d'État contribuent à trois objectifs, à savoir contribuer au maintien d'une qualité de l'air plus propre, soutenir le programme du président en faveur de l'industrie verte en aval et encourager l'efficacité énergétique. En décembre 2023, plus de 900 bornes de recharge publique pour véhicules électriques seront opérationnelles dans 411 sites à travers l'Indonésie. Sur ce total, 624 bornes publiques de recharge pour véhicules électriques sont gérées par PLNSA. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, BMKG, prédit que le potentiel de conditions météorologiques extrêmes se produira encore en janvier 2024. L'adjoint à la météorologie, Guswanto Siteparantara, a déclaré jeudi 4 janvier que le BMKG, ou l'Agence de météorologie et climatologie et géophysique de l'Indonésie, continue de mettre à jour la surveillance les conditions météorologiques pour anticiper l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes en prêtant attention aux conditions dynamiques de l'atmosphère. BMKG prédit que pour la semaine prochaine ou pour être précis autour du 3 au 10 janvier 2024, il faudra être attentif au potentiel de fortes pluies dans plusieurs régions d'Indonésie. À partir de Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi jusqu'en Papouasie. L'Agence de météorologie, climatologie et géophysique, BMKG, exhorte le public et les agences concernées à rester vigilants face au potentiel météorologique extrême sous forme de pluie modérée, à fortes accompagnées d'éclairs et de vents forts pour la semaine prochaine, surtout pour les zones à topographie escarpée et montagneuse avec des falaises ou sujettes aux glissements de terrain et aux inondations. Veuillez rester attentifs aux impacts causés par des conditions météorologiques extrêmes. Le ministère de Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie soutient la mission d'escalade qui sera réalisée par Kansa Shahla, un élève de classe 12 au lycée Lepskul Rawamangun à l'est de Jakarta, sur le mont Aconcagua, Argentine, du 20 janvier au 13 février 2024. Dans la conférence de presse avec Sandy Uno au bâtiment Sabta Pesona Centre de Jakarta mercredi 3 janvier 2024, le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, chef du département du tourisme et de la création, l'Agence économique Sandiaga Uno, a déclaré que cette montagne est la quatrième montagne que Kansa a escaladée depuis les sept plus hauts sommets des sept continents. En 2017, Kansa a réussi à atteindre le plus haut sommet d'Indonésie, à savoir le Puncak Jayawijaya ou pyramide de Skarstens, le mont Kilimanjaro en Tanzanie et le mont Elbrus en Russie en 2022. À la même occasion, l'adjoint aux produits et à l'activité touristique du ministère de l'Éducation, Tourisme et l'Économie créative, Vincentius Jumadu, a déclaré que la mission d'expédition menée par Kansa était un élan pour promouvoir le potentiel du tourisme d'intérêt particulier en Indonésie, considérant que l'Indonésie possède une grande diversité naturelle qui peut constituer une attraction touristique. Le gouvernement provincial de Java occidental cible de nouveaux marchés dans la région de l'Asie du Sud-Est asiatique jusqu'au Moyen-Orient comme destination pour l'exportation de meubles en rotin de la régence de Cirebon, chef du service de l'industrie et du commerce de la province de Java Ouest, Nonen Komara Nengsi. À Cirebon, Java Ouest a déclaré mercredi, cité par Antara, jusqu'au cours des dernières années, les meubles en rotin produits à Cirebon et dans d'autres régions de Java occidental ont réussi à pénétrer le marché européen. Cependant, en raison du conflit mondial, la livraison de meubles en rotin de Cirebon vers plusieurs pays de destination en Europe a été perturbée à la tendance et à la baisse. Pour cette raison, l'entreprise tente d'étendre ses produits de meubles en rotin et d'autres pays hors d'Europe. Bien qu'il ne l'ait pas mentionné en détail, Nonen a confirmé que la situation des exportations de meubles en rotin et d'autres produits de l'ouest de Java était encore assez bonne. Selon Nonen, les exportations de l'ensemble de la province de Java occidental atteindront 33 000 milliards de roupies en 2023. Malgré un déclin, Java Ouest reste la région exportatrice la plus élevée au niveau national avec une valeur de contribution de 14,4% en 2023, soit une augmentation significative par rapport à 2022 autour de 13%. La bourse de Indonesia SABI est optimiste quant au nombre de sociétés ou d'émetteurs cotés sur le marché des capitaux indonésiens atteindra 1000 émetteurs en 2024. Le directeur du commerce et de la réglementation des membres d'IDEX Exchange, Irfan Susandi, à Jakarta, mercredi, cité par Antara, a déclaré que pas moins de 97 sociétés sont nécessaires pour inscrire leurs actions initiales ou procéder à une offre publique initiale IPO en 2024. Étant donné que le nombre total d'émetteurs sur l'IDEX est actuellement de 903 émetteurs, en augmentant le nombre d'émetteurs, Irfan espère augmenter la capitalisation boursière du marché des capitaux indonésiens qui vaut actuellement 11,674 milliards de roupies, soit seulement 46% du produit intérieur brut PIB de l'Indonésie. Tout au long de l'année 2023, pas moins de 79 entreprises ont réussi à inscrire leurs actions initiales sur l'IDEX. Les fonds levés atteignant 54 140 milliards de roupies. L'IDEX a noté qu'il y a encore 30 sociétés en attente d'introduction en bourse cette année, soit près de la moitié de l'objectif de l'IDEX de 62 sociétés à introduire en bourse en 2024. Bon, chers joueurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre « L'ambassade d'Indonésie à Séoul et les étudiants de HEAT lancent la livre de 50 ans d'Indonésie-Corée du Sud ». L'ambassade d'Indonésie à Séoul et les étudiants bénéficiant de bourses d'études de l'enseignement supérieur pour les talents de l'ASEAN, HEAT en Corée du Sud, ont lancé le livre « Partenariat Indonésie-Corée, point de vue d'un chercheur indonésien sur 50 ans de relations » le 28 décembre 2023. Lancement du livre était le dernier événement d'une série d'activités visant à commémorer les 50 ans des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Corée du Sud cette année. Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade d'Indonésie à Séoul, Zelda Wulan Kartika, expliquait dans une déclaration écrite reçue par Antara mardi que ce livre était l'œuvre du professeur qui poursuit actuellement un programme de doctorat en Corée. Il s'agit d'une contribution importante à l'amélioration de la qualité de la coopération Indonésie-Corée du Sud. Selon Zelda, le livre contient de précieuses leçons sur la politique du gouvernement sud-coréen et du monde des affaires dans divers secteurs qui serviront de référence au gouvernement indonésien qui organisera des élections cette année. Zelda a également apprécié le travail des étudiants qui ont reçu des bourses HEAT, car le livre de compilation des résultats de recherche faisait partie d'une série de célébrations de 50 ans de coopération entre l'Indonésie et la Corée du Sud. L'ambassade d'Indonésie à Séoul espère que le livre « Partenariat Indonésie-Corée, perspective d'un chercheur indonésien sur 50 ans de relations » disponible en ligne ne sera pas le dernier livre des lauréats HEAT. Chers auditeurs, c'est la clé diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 janvier 1948, la Birmanie devient indépendante. Le 4 janvier 1948, le Myanmar, anciennement connu sous le nom de Birmanie, réussit à obtenir son indépendance de la Grande-Bretagne. Depuis le 16e siècle, les pays européens, dont l'Angleterre, les Pays-Bas et la France, se disputent les riches ressources naturelles du Myanmar. Après deux guerres majeures entre le peuple birman et les envahisseurs, au milieu du 19e siècle, l'Angleterre contrôlait officiellement le Myanmar et l'unissait à l'Inde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Myanmar était occupé par le Japon. Cette époque d'occupation japonaise a été utilisée par le peuple du Myanmar pour organiser son mouvement indépendantiste, en créant la Ligue populaire libre antifasciste ou AFPFL sous la direction d'Aung San. Après la défaite du Japon, l'Angleterre est revenue au Myanmar, mais parce qu'elle a constaté que la AFPFL avait une grande influence parmi la population, l'Angleterre a finalement accepté de céder l'indépendance au Myanmar. Passons maintenant à l'événement du 4 janvier, la Journée mondiale du Braille. La Journée mondiale du Braille est célébrée chaque 4 janvier pour commémorer la prise de conscience de l'importance du Braille comme moyen de communication dans la pleine réalisation des droits de l'homme des personnes aveugles ou malvoyantes. L'histoire de la communication de la Journée mondiale du Braille commence en 2006. À cette époque, la Convention relative aux droits des personnes handicapées proposait les droits et le bien-être des personnes handicapées. La Convention considère le Braille comme essentiel à l'éducation, à la liberté d'expression et d'opinion, à l'accès à l'information et à l'inclusion sociale des aveugles. La découverte de Louis Braille a été très utile aux aveugles du monde entier. C'est pourquoi en novembre 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 14 janvier comme Journée mondiale du Braille. La raison pour laquelle le 14 janvier a été choisi comme Journée mondiale du Braille est qu'il coïncide avec la date de naissance de Louis Braille. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 janvier 1966, la conférence de Dar el-Beida se tient au Maroc. Le 4 janvier 1966, une conférence politique connue sous le nom de conférence de Dar el-Beida s'est tenue au Maroc. Cette conférence visait à former un bloc en Afrique et a été initiée par le président égyptien de l'époque, Gamal Abdel Nasser. La conférence a réuni l'Algérie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Maroc, l'Égypte et la Syrie. La création d'une force militaire unifiée en Afrique était l'objectif de la conférence. Par ailleurs, un marché commun est né en Afrique. Cependant, pratiquement, la décision de la conférence de Dar el-Beida n'a pas été parfaitement exécutée. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal. Kau buat sirna, sudahlah harap.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Le ministère de l'Environnement et des Forêts a déclaré que les exportations réelles de produits forestiers représentaient 127,5% de l'objectif fixé ». Le ministère de l'environnement et des forêts, KLHK, a déclaré que la réalisation des exportations de produits forestiers en 2023 atteindra 128,5% de l'objectif fixé. Le directeur général par intérim de la gestion des forêts de production durable du KLHK, Auguste Justianto, a révélé que le KLHK ciblait des exportations de produits forestiers en 2023 de 10 milliards de dollars américains. Dans une déclaration écrite à Jakarta lundi 1er janvier 2023, Auguste Justianto a déclaré que l'un des facteurs influençant la performance des exportations de produits forestiers et la fiabilité du système de vérification de la légalité et de la durabilité SVLK. Selon lui, ce système a gagné la confiance du monde entier pour garantir que les produits de bois achetés proviennent d'une gestion forestière durable. Cela est également prouvé par le classement le plus élevé de l'Indonésie au Global Timber Index, GTI, une plateforme qui promeut le commerce légal et durable de bois publié par l'Organisation internationale des bois tropicaux, OIBT. Le directeur de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers au ministère de l'Environnement et des Forêts, Christianto, a ajouté que le changement de marque et le renforcement de SVLK sont très stratégiques lorsque la question de la légalité et de la durabilité des produits de bois devient de plus en plus une préoccupation mondiale. Il a déclaré que de nombreux pays élaborent désormais des réglementations pour garantir que les produits ligneux entrants proviennent d'une gestion forestière durable et non de la déforestation. Après que l'Union européenne a mis en œuvre des réglementations anti-déforestation, OUDR, actuellement, la tendance aux réglementations sans déforestation émerge également sur le marché clé. Il s'agit notamment des États-Unis avec la loi sur les forêts des États-Unis 2023, de l'Angleterre avec produits à risque forestier au Royaume-Uni et du Japon avec la loi japonaise sur le bois propre. Christianto a déclaré que pour faire face à cette tendance, SVLK continue de se renforcer. Actuellement, SVLK s'est doté de critères et d'indicateurs adaptés aux demandes du marché mondial. L'un d'eux est la traçabilité à travers la fourniture des coordonnées des liens d'exploitation forestière, de transformation et de commercialisation des produits de bois ou géolocalisation. Selon lui, pour accroître l'acceptation du SVLK, des campagnes positives du SVLK et une diplomatie douce sont également menées en conjonction avec la promotion et l'augmentation de la coopération internationale. Pendant ce temps, le président général de l'Association indonésienne des hommes d'affaires forestiers, APHI, Indroyono Susilo, a déclaré que sa parti soutient pleinement les efforts de promotion et de diplomatie du SVLK. Selon lui, il a été prouvé que le SVLK augmente la responsabilité et la transparence, ce qui a un impact sur l'amélioration de la gouvernance forestière en Indonésie. Il a ajouté qu'indirectement, SVLK soutient également la réalisation de Follow Net 5 2030 en réduisant le taux de déforestation et d'exploitation forestière illégale, ainsi qu'en élargissant le marché illégal du bois. Indroyono a également révélé que la promotion et la coopération avec les associations d'importateurs de bois dans les pays de destination se poursuivent actuellement avec la facilitation de l'ambassade d'Indonésie dans les pays de destination des exportations. L'une des activités de l'association consiste à mener des activités de communication et d'exploration de marché avec l'un des plus grands groupes d'entreprises du Moyen-Orient en marge de la conférence COP28 de la CCNUCC sur le changement climatique, Dubaï, Émirats Arabes Unis. Il espère que Dubaï pourra devenir une plaque tournante du commerce du bois indonésien au Moyen-Orient et même sur le marché mondial. C'est Zrital, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
From Indonesia to the world. kau jelas miliki sesuatu. Namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu. Apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu. Semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu. Mungkinkah ku terbenar untukmu? Bilakah
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces résultats, le village touristique de Pulisan est l'une des destinations touristiques intéressantes de Likupang, dans le nord de Sulawesi. Automatiquement, ce village touristique est au cœur des destinations super prioritaires ou DSP. Non seulement il est stratégiquement situé, mais le village touristique de Pulisan est l'un des villages touristiques les plus remarquables d'Indonésie. Sitangminute.go.id, le village touristique Pulisan a réussi à remporter la deuxième place lors de l'événement du prix du tourisme Trisakti 2021 qui a eu lieu en août 2021. Le village touristique Pulisan a réussi à gagner dans la catégorie village touristique avec la vidéo préférée choisie par les internautes avec 3650 likes sur le compte Instagram Trisakti World. Le village touristique de Pulisan est l'un des principaux villages touristiques de Likupang qui propose des forfaits complets de tourisme maritime. Les deux principales destinations touristiques du village de Pulisan sont la plage de Pulisan et la colline de Pulisan. La place de Pulisan elle-même est l'une des plages préférées de Likupang car il possède du sable blanc et doux le long de son rivage. Cette place de sable blanc semble être composée de trois parties, chacune étant séparée par une falaise rocheuse qui s'avance vers la mer. Diverses activités intéressantes qui peuvent être pratiquées sur la place de Pulisan sont la plongée et la plongée en apnée. Non moins intéressant, les touristes peuvent également visiter les maisons flottantes au milieu des eaux autour de la place de Pulisan. Pendant ce temps, la colline de Pulisan dans la zone de village touristique de Pulisan offre également des vues non moins belles. Du haut de la colline, vous pouvez voir une étendue d'algues turquoise combinée au bleu de la mer. Même s'il faut d'abord faire du trekking, la vue depuis le sommet de colline de Pulisan effacera la sensation de la fatigue. Cerita, l'attrait touristique du village de Pulisan est de plus en plus complet grâce à la grotte de Pulisan et à la réserve naturelle de Tangkoko Dua Saudara. Cette réserve naturelle est un habitat pour des animaux rares protégés comme le yaki ou grand singe noir endémique du nord de Sulawesi ainsi que l'oiseau maléo. En dehors de cela, le gouvernement local a également préparé un certain nombre d'infrastructures pour rendre les vacances des touristes plus confortables lorsqu'ils s'arrêtent au village touristique de Pulisan. À partir de familles d'accueil jusqu'à la fourniture d'un signal 4G autour du village touristique de Pulisan. Chers auditeurs, c'était le magazine Kutula pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter la mosquée de Jokowi. Les relations amicales entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis sont très étroites. Les deux pays ont des mosquées qui portent le nom de chef d'État. Dans la ville de Surakarta se trouve la grande mosquée Sheikh Zayed. Pendant ce temps, la mosquée Jokowi est située dans la zone diplomatique d'Abu Dhabi et traversée par la route du président Joko Widodo. La mosquée du président Jokowi à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis marque une réalisation monumentale dans la diplomatie indonésienne au niveau international. Elle est située dans la zone diplomatique d'Abu Dhabi et traversée par la route du président Joko Widodo. La mosquée s'étend sur un terrain d'une superficie de 3766 m² et peut accueillir jusqu'à 2500 fidèles. La construction d'une mosquée porte le nom du président indonésien Joko Widodo par le gouvernement des Émirats Arabes Unis a été commencée en 2021. La mosquée a été ouverte au public et peut être utilisée le 14 décembre 2023. Cette mosquée a été construite avec des matériaux de haute qualité. Il existe de nombreux ornements en bois et sculptures Asmaul Husna utilisé pour décorer la mosquée. Outre la mosquée Jokowi, dans la ville d'Abu Dhabi se trouve la rue Jokowi. Pendant ce temps, en Indonésie, il y a le survol de Sheikh Mohammed bin Zayed qui s'étend de la région de Jakarta à Cikampek sur 36,84 km. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont bien établies depuis 1976. Les Émirats Arabes Unis sont le principal partenaire commercial et d'investissement de l'Indonésie dans la région du Moyen-Orient. Les Émirats Arabes Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Indonésie parmi les pays du Moyen-Orient avec un commerce total de 5,06 milliards de dollars. En outre, les Émirats Arabes Unis sont devenus l'un des principaux marchés de l'Indonésie, l'huile de palme étant devenue un produit d'exportation important. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah, yakinkan hatimu.
kamu takkan ku lelah, yakinkan hatimu.
Cinta tak pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voiceofindonesia.com. www.voinews.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Lingua intitulée Bila Kuingat. Chers amis, Lingua est un groupe vocal formé en 1996. Les membres de Lingua sont Franz Mohede, Amara et Ari Widiawan. Le nom Lingua lui-même est devenu connu après la sortie du single intitulé Bila Kuingat. Cette chanson fait partie de leur premier album studio sorti en 1996. Leur premier album en dit plus sur l'amour universel dans la perspective de l'amitié et de la spiritualité. De même avec la chanson Bila Kuingat, cette chanson créée par Yofi Widianto raconte l'incertitude de la relation d'une personne et l'espère que son partenaire tiendra sa promesse de l'aimer. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Lingua intitulée Bila Kuingat. Bonne écoute!
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melamun.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya.
Bukan hanya angannya kelamaan.
Bila ku ingat janji manismu, ku tunggu sampai malam.
Bonjour Jetard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voixindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.